Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Tounboy, Lucille Como, Boris Pinault et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Emmanuel Morsdinck, en réalisation Thomas Beau. Autour de moi, Lucille Como, Mathieu Conquet et Guillaume Thion pour parler ensemble du Coq d'or de Rimsky-Korsakov qui sort en DVD Blu-ray chez Bel Air Classique sous la direction d'Anna Altinoglu, mise en scène Laurent Pelli. Autre DVD, mais également sur la scène de l'Opéra de Paris en ce moment, double programme, Château de Barbe Bleue, La Voix Humaine, Béla Bartok, Francis Poulenc, en ce moment dirigé par Ingo Metzmacher, mais mise en scène évidemment toujours Christophe Barlikowski. Sur le DVD, c'est Esa-Pekka Salonen qui est dans la fosse, nous allons en parler. Enfin, un disque interprété par Célimène Daudet, un CD qui sort chez Nomad Music, un programme de préludes pour piano de Messiaen et Debussy. Boris Pinault surveille les fils Twitter et Facebook pour donner à entendre les commentaires que vous pourriez avoir à faire sur notre programme du soir ou les questions que vous auriez à poser à nos critiques. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Enfer et fantômes d'Asie. C'est jusqu'au 5 juillet au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Nous ouvrons cette dispute avec un premier ouvrage en DVD, en l'occurrence le Coq d'or, opéra en trois actes de Nikolaï Rimsky-Korsakov, d'après le conte de Pouchkine. Ce fut le dernier opéra de Rimsky-Korsakov. Il a été créé en octobre 1909 à Moscou, soit après la mort du compositeur, mort l'année précédente, la censure ayant interdit la représentation, en tout cas de son vivant. L'œuvre était-elle réellement anti-tsariste? En tout cas, on va y découvrir Dodon, tsar, au goût très immodéré pour la sieste, comme on le comprend. Mais les troupes armées qui s'agglutinent près de la frontière l'obligent à rester en éveil, mais un astrologue qui descend du ciel, très littéralement, par une échelle ici, lui fait un cadeau, un coq d'or, toujours sur le qui-vive, évidemment, et qui l'avertira dès qu'un mouvement militaire suspect s'approchera des frontières. Le reste du temps, il pourra dormir tranquille, évidemment, ce ne sera pas le cas. Voilà un ouvrage dont on pouvait se dire à l'avance que le metteur en scène Laurent Pelli pouvait en faire son miel. Qu'en est-il? Réponse avec nos critiques, alors que cette production de la Monnaie de Bruxelles sous la baguette donc d'Alain Altinoglu sort en DVD et Blu-ray chez Bel Air Classique. On écoute tout de suite un extrait.
Но с тобой мы не знакомы. Полком бедности влекомы. И наслышан, что Дадон потерял в заботах сон. Дар принес тебе я птицу, посади ее на спицу. Петушок мой золотой будет верный сторож твой. Коль кругом все будет мирно, так сидеть он будет смирно, но лишь чуть со стороны. Вернется, запретить, перед
voilà pour cet extrait du Coq d'or de Rimsky-Korsakov. Et Lucile Comeau, vous avez l'air de prendre un tel plaisir à entendre cet extrait, après avoir vu au moins deux fois, j'imagine, ce DVD, que vous allez commencer cette dispute.
Oui, et dans l'extrait, on entend, je pense, un des chanteurs les plus impressionnants de la production, même si c'est un des personnages qu'on entend le moins, qui joue cet astrologue sage, qui est un ténor, dont moi j'ai trouvé la voix assez impressionnante, et qui du coup est aussi le personnage qui introduit cet ouvrage, qui est un conte, qui est présenté comme tel, qui a donc un prologue et une morale à la fin. On est un petit peu entre Voltaire et Jarry, une sorte de conte philosophique avec ce héros qui est une sorte d'avatar du Père Ubu. On peut voir des filiations, mais en moins méchant, mais tout aussi ridicule, disons. Donc en fait, l'idéal, c'est ce que vous disiez, c'est que son idéal à lui, c'est de gouverner depuis son lit. Donc le lit dans la production de Laurent Pelly est un élément central du décor. Donc sur la scène, quand le rideau s'ouvre, il y a un amoncellement. Alors au DVD, j'ai pas pu exactement définir de ce que ça pouvait être, mais des cendres, de la terre, voilà, des sortes d'amas, du charbon.
Comme leurs vêtements sont noircis par terre. Oui.
Tout
le
est
sol.
Très sombre, ouais. Il faut le dire, les lumières sont extrêmement sombres, et c'est vrai que à l'image du DVD, parfois on a du mal à distinguer ce qui se passe, qui à mon avis aussi est un effet voulu de la scénographie, je vais y revenir. Donc ce personnage est quasiment tout le temps sur son lit, qui devient même à la fin un char roulant, un lit roulant. Tout est très intelligent dans la mise en scène parce que elle ne joue pas uniquement justement la carte du bouffon. C'est-à-dire que c'est un opéra qui est assez court, qui est composé musicalement de choses assez simples, harmoniquement, avec beaucoup d'unissons, des airs qui sont courts, qui ressemblent un peu à des chansons, des chœurs qui, alors pour le coup, ressemblent vraiment à de la chanson populaire parfois. Donc là, Laurent Pelly fait le choix de ne pas en faire uniquement un opéra bouffon, un opéra avec des personnages ridicules. Et je pense que ça tient largement à son choix, notamment de la lumière et des décors, qui sont extrêmement intelligents. Par exemple, le deuxième tableau qui se passe dans un ailleurs du palais, on peut imaginer du Kremlin de Dodon, puisque Dodon part à la guerre alerté par son coq, il finit par se dire « bon, il faut que j'y aille quand même moi-même, ses fils sont morts, il n'y a plus que lui pour être le chef ». Et il va rencontrer une tsarine, une jeune femme qui va le séduire. Et ce lieu dans le livret est une tente, donc une tente qui est dressée en dehors de la ville, on imagine. Et là, c'est figuré par la mise en scène de Laurent Pelly, par une structure en cerceau qui s'allume au fur et à mesure. Donc l'obscurité se dévoile légèrement des éléments de décor et des ombres derrière. Il y a quand même toujours quelque chose de très inquiétant dans le spectacle qui tout ça fait que on a l'impression que Pelly prend au sérieux cet ouvrage-là, n'en fait pas uniquement quelque chose de folklorique, de juste une petite chose russe qui est très ancrée dans un contexte des années 1900. Et du coup, le spectacle a vraiment plusieurs niveaux de compréhension et le plaisir en est décuplé, à mon avis.
Mais si on doutait de cet aspect tragique, la dernière image qu'on ne dévoilera pas lève toute ambiguïté. Mathieu Conquet, premier regard sur ce Coq d'or, et on reste peut-être pour l'instant sur la mise en scène, la direction d'acteur.
Comme toujours, chez Laurent Pelly, on s'amuse beaucoup. Il y a des coupes de cheveux désirless sur des soldats qui sont super. Le Coq d'or, c'est une sorte de gros poussin très très mignon. C'est assez réussi. Le tsar ressemble à une sorte de Jean-Pierre Coff en pyjama. Voilà, tout ça. Mais le tsar, pour moi, c'est peut-être par là que ça pêche, et le côté bouffon est peut-être exagéré de son côté. D'une part, déjà, le baryton basse Pavlo Unka, qui l'interprète vocalement, il est beaucoup moins fort que les autres chanteurs, je trouve.
Surtout dans l'acte 2. Il faut quand même y aller. C'est une partition extrêmement exigeante aussi. Il est tout le temps en scène, comme le disait Lucile.
C'est difficile, mais dans l'acte 2 dont vous parliez, Lucile, il se trouve qu'il est face à la tsarine de Tchémaka. Et là, vraiment, on peut dire que la soprano Venera Guimadieva, c'est son acte. Enfin, elle est vraiment géniale de bout en bout. Elle, c'est une sorte de vouivre, vous voyez, une sorte de femme serpent, un peu oiseau en même temps, tout à fait vénéneuse, attirante. Et sur le plan vocal, en plus, il faut dire que dans l'œuvre, il y a une métaphore de ce que c'est que la puissance du chant, puisqu'elle exprime que la beauté des sentiments doit bien pouvoir se chanter. Il se trouve que ce malheureux tsar de Don, il est incapable de chanter quoi que ce soit. Il assène des trucs très répétés, très bêtes. Et je trouve que ce chanteur, autant la mise en scène, moi je la trouve vraiment brillante.
Parce qu'on était là-dessus, on était revenir, sur la mise en scène.
On va pouvoir revenir. Effectivement, il y a beaucoup de choses très, très réussies dans les choix que propose Laurent Pelly. Effectivement, il y a quelque chose d'assez bouffon. Moi, je trouve qu'il joue volontiers avec ce côté bouffon. Et le côté sublime est plutôt assumé par la musique, par l'orchestre, par la direction d'Anna Altinoglu, qui est vraiment impeccable.
Alors, vous parlez de la... On y vient dans un deuxième temps. On reste vraiment sur la mise en scène et sur le jeu. Alors, peut-être que je passe la parole à Guillaume Thion sur ce point-là.
Alors, comme Mathieu, au début, je trouvais effectivement que c'était un peu fort de café, un peu chargé dans le registre bouffon, le premier acte, donc avec effectivement le gros poussin, cette espèce de conte lunaire à la Pelly où finalement tout est relativement sombre sauf des taches de couleur qui sont justement souvent des animaux ou des choses. On a le roi carotte, on a platé la grenouille, là c'était le poussin, enfin le poussin, le coq. Et puis en fait, à partir du deuxième acte, effectivement, ça se transforme et c'est un petit peu, enfin, l'histoire en fait de cet opéra tel que la mise en scène le décrit, c'est un petit peu de quitter le conte, donc pseudo-enfantin, pour aller vers sa signification. Mmh. Et là, justement, plus on avance, plus on est dans le sombre. À la fin, on est carrément presque dans le réalisme, un réalisme fantastique, où on se retrouve la gouvernante, qui avait un rôle absolument mineur dans le premier acte, on va dire juste de divertissement, se retrouve face au peuple, où finalement, il y a des morts, où le poussin tue le tsar, ce qui est quand même pas rien, à l'époque où le tsar est encore vivant, de faire une œuvre où un poussin tue un tsar.
Et sur scène,
et un coq.
Non, parce que ça aurait été encore pire,
Donc moi j'ai été plutôt séduit au fil de l'eau par cette mise en scène, avec quand même un bémol sur l'acte 2, où là moi je trouve que toute la partie érotique que devait assumer la reine, à mon avis est ratée. Je trouve qu'elle est pas à l'aise quand elle démarre.
Mais non.
Non, quand elle démarre elle est pas à l'aise, on la sent, elle est forcée, l'air du soleil marche beaucoup moins que l'air ensuite qui vient, qui est celui où elle se rappelle éventuellement cette île fantasmée où elle régnait, etc. Et je trouve que en fait, voilà, le deuxième acte, qui est l'acte en fait où ça bascule, quelque part, est réussi, parce que ça bascule aussi à l'intérieur de la mise en scène, mais moi, m'a moins convaincu. C'est-à-dire qu'effectivement, l'attente, cette espèce de corne d'abondance dont on voit que la structure, je sais pas. Moi, le deuxième acte m'a moins séduit. Des couleurs derrière qui passent, un peu de vert, un peu, enfin, on sait pas trop où on est, et finalement, effectivement, ça bascule pour avoir une forme quasi réaliste au troisième acte. Et, in globo, c'est une très bonne mise en scène, je trouve, mais avec quand même des moments où, on est vraiment surpris par les choix, qu'a fait Pelly.
Vous êtes, vous, sensible à la dimension érotique de la tsarine, Mathieu Conquet. Vous trouvez que ça marche à ce moment-là,
Oui, moi, sur ce plan-là, j'ai vraiment été séduit. Je vous dis, on pense vraiment à une vouivre, une guivre, vous voyez, cet animal.
Jeanne d'Arc sortie de Métropolis.
C'est plus réussi que ça.
Alors, en effet, là, côté cabaret, je vois le côté cinéma des années 30, mais c'est plus du côté du cabaret. Enfin, moi, j'ai vraiment vu ça.
Alors, elle était venue chanter à Paris, elle avait chanté Violetta, et paraît-il, elle était extraordinaire, voilà, dans une Traviata récente. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir, mais en tout cas, les critiques avaient été visiblement soufflées, par son interprétation.
Très bien.
Voilà, c'est une belle chanteuse à tout point de vue. Pour un dernier point sur la mise en scène, puisque prologue et la clôture, c'est le mage qui a le premier et le dernier mot. Et ce qui est vraiment génial, c'est que le mage finit par vous dire, bon, tout ce que vous avez vu, on vient de tuer le tsar quand même sur scène, tout ce que vous avez vu, c'est évidemment faux. Il n'y a que moi et la reine qui sommes réels. Évidemment, c'est les deux personnages les plus fantastiques qui apparaissent et disparaissent de façon magique. Et lui, d'ailleurs, il y a un choix de mise en scène qui est assez astucieux, puisque le rideau vient se refermer sur sa tête et on ne voit plus que sa tête qui dépasse, qui est éclairée par une petite poursuite. Et on le voit d'un coup s'élever dans l'air ou alors sa fessée au sol. Et effectivement, le mage, il y a quelque chose. Alors, paraît-il, Rimsky-Korsakov voulait que le ténor qui le chante travaille beaucoup sa voix de tête. Et effectivement, il a un côté mutant. C'est-à-dire que ce personnage, il finit ses phrases avec des aigus, mais suraigus, et il y a quelque chose qui correspond extrêmement bien à l'ambivalence du personnage. C'est assez passionnant, tant sur le plan vocal que dans la mise en scène.
Mais il est prévu pour s'envoler, oui.
Et puis, dire encore un mot d'ailleurs à propos de ces effets-là, on ne l'a pas dit au moment où cette production s'est donnée à la Monnaie, c'était encore le théâtre éphémère qui ne bénéficiait évidemment pas ni des mêmes dégagements, ni des mêmes cintres, etc. Et donc la mise en scène de Pelly, elle rentre quand même dans un cadre très difficile.
Mais du coup, ce qui était pas mal, c'est qu'on voyait, je me disais, mais tiens, je ne me souvenais pas que la Monnaie, ça se présentait comme ça. L'orchestre, il y a une fusion totale entre l'orchestre et la mise en scène.
Et vraiment la salle. Alors que dans la Monnaie, il est plutôt très en bas. Exactement. Et si on est à l'orchestre, on n'a aucune chance de l'apercevoir.
Mais pour le DVD, c'est bien parce qu'on voit Altinoglu tout le temps.
Alors justement, Altinoglu, il faisait ses débuts de directeur musical de la Monnaie à ce moment-là. Tiens, Guillaume Thion, pour commencer, sur le travail du chef français.
Alors, bah justement, Alain Altinoglu est un homme de challenge, de défi.
Oui, il adore ça, oui.
Un coureur de répertoire qui n'hésite pas à passer de l'un à l'autre. Et là, en l'occurrence, c'était du russe. Il avait déjà fait du russe, notamment à Paris avec Yolanta Perséphone. Homme de défi parce que justement, il reprenait en plus la monnaie. Et ben non, je l'ai trouvé très bien. Mais ça dit, je l'ai vu à la télé, donc c'était pas non plus comme si j'étais dans la salle.
Bien sûr.
Mais effectivement, par rapport à cette œuvre de Korsakov, qui est sa plus moderne, sa dernière, et donc il y a plein de petits thèmes qui est très thématisé, qui arrête pas de, on va dire, de pas de transposer, mais de moduler, mais de bricoler, on va dire, thème sur thème, et qui est très dans le dynamisme. Lui, j'ai l'impression justement qu'il est allé dans ce sens de la dynamique et de la clarté, et sans s'apesantir sur, on va dire, un post-romantisme à la russe qu'on peut souvent trouver chez des gens qui dirigent, chez des chefs, pardon, qui dirigent ce type de répertoire.
Alors c'est vrai qu'on parle d'un DVD, que peut-être que le travail des techniciens de la prise de son aide aussi.
Oui, ma télé aussi. Il y a un risque.
On peut pas savoir.
Il y a un risque dans l'œuvre, d'ailleurs, que Laurent Pelly met en scène.
Pelly, il a deux ailes, hein, voilà. Pelly, il tient.
Pelly. Il y a des moments où les cuivres sont extrêmement brillants, extrêmement présents, mais c'est la musique qui veut ça. Il y a des moments de cacophonie qui sont organisés par la musique, et on voit le tsar se boucher les oreilles. C'est pas du tout notre cas. En tout cas, moi, en regardant le DVD, même branché sur un bon système son avec le volume fort, c'était très agréable, tout le temps. Moi, je trouve qu'effectivement, il y a une virtuosité. Franchement, je pense que pour les musiciens, c'est pas de tout repos d'interpréter cet opéra, parce que ça change toutes les deux secondes. Il y a un rythme effréné. On passe d'une flûte un peu mozartienne, quelque chose de très doux, à quelque chose de complètement martial. C'est suivi ensuite par des chœurs dont il faut redire aussi que vraiment dans le texte, il y a des choses mais hyper subversives. Vous voyez un chœur de femmes que Laurent Pelly a habillé comme des travailleuses surmusclées, très, très butch, et qui chante « Sœur qui boite à côté de notre ravissante beauté par le rang et l'habit ». Un tsar, mais par le corps et l'âme, un esclave. Vous imaginez quand même de dire ça sur scène en Russie. Voilà, c'est quand même très lourd de sens. Et c'est mis en abîme. Bon, allez, en tout cas, il y a beaucoup de jeux d'écho avec la révolution de 1917, évidemment, mais aussi avec un côté...
je reviens de 1905 aussi, qui était quand même passé par là.
Il y a beaucoup ça, mais il y a un côté rococo intérieur russe, d'oligarque russe, avec des papiers peints très lourds, quelque chose d'un peu très voyant, très velours, qui est, à mon sens, très réussi.
On revient vers la musique, et puis tout à l'heure, vous avez vanté les mérites d'Alexander Kravets, sans citer son nom, donc repartons de là aussi, ce fameux mage astrologue.
Non, mais qui a très peu de parties, donc bon,
oui,
pas
mais
non
quand
plus,
même.
Mais voilà, mais que je trouve assez exceptionnel, notamment dans les aigus, surtout que comme c'est un des personnages qu'on entend les premiers, et qu'il a quand même une virtuosité assez impressionnante dès le départ, c'est très beau. Moi, je ne serais pas aussi sévère avec Dodon, je trouve que quand même... C'est long, c'est difficile, il a des registres très différents dans les tessitures. Franchement, il s'en sort vraiment bien. Après, je me suis posé la question, parce que j'ai regardé le film sans regarder le nom des chanteurs. Ils sont clairement tous quasiment slaves, peut-être russes même. Je me posais la question d'autres chanteurs dans ce type de rôle, avec une langue russe qui a l'air d'être particulièrement importante pour dire le texte et même le chanter, je pense. Et je pense que vraiment, il y a peut-être que les Russes qui peuvent chanter ça, notamment le rôle de Dodon, pour avoir la clarté, les changements de rythme sans la langue, je pense que c'est très difficile.
Oui, enfin, il y a aussi un vrai sentiment d'équipe, effectivement.
Ah oui,
il y a une troupe.
Voilà. Par-delà la langue, il y a aussi le fait que dans les airs, il n'y a pas vraiment de concurrence, à part les deux personnages de l'astrologue et de la reine qui vraiment ont des grands numéros. Dodon, lui, a une partition très compliquée, etc. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Dodon, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, là, en tout cas, au moins tout le premier acte, les chanteurs s'équivalent. Il y a vraiment un esprit, on va dire, de troupe, donc oui, qui passe dans le chant, dans les morceaux. Aucun ne tire la nappe à soi, on va dire. Et ça, je pense que c'est assez favorable. Enfin, c'est vraiment très.
Assez rarement le cas. Dernier mot, Mathieu Conquet.
Mais moi, j'ai appris quelque chose en discutant avec vous juste avant l'émission, c'est que le coq d'or, c'est pas le coq d'or. C'est-à-dire que
ce
coq d'or, c'est une sorte de gros poussin qui est vraiment ravissant, qui a une chorégraphie hyper drôle et très réussi, même quand il est meurtrier, quand il vient piquer de son bec et tuer le tsar sur scène, tous ses gestes sont très réussis, mais ce n'est pas lui qui chante. La raison pour laquelle, au final, vous voyez le coq.
On voit Sarah de Marthe, qui est la danseuse, et Shea Théoval, qui est la danseuse. Oui, j'ai dit quoi ? J'ai dit l'inverse.
Oui, mais c'est pas
bon. Il faut préciser que Cocorico, en russe, ça se dit Kirikiri.
Oui, mais ça, vous le saviez déjà. Bon. Eh bien, c'est voilà. Vous avez comme ça appris deux choses en même temps que nous.
Le coq d'or. Aussi Cocodile Didou, et donc voilà, il y a plein de façons de dire cocorico.
Ah ben, dans toutes les langues, c'est une des choses assez drôles du cocorico. Et puis, il se dit très, très, très différemment selon les idiomes. Le coq d'or. Rimsey Carson, vous voulez un dernier mot?
Non, mais c'est vrai, vous parlez de 17 et de 1905, mais c'est vrai que c'est amusant de voir symboliser, on va dire, la présence du changement et éventuellement le réveil par justement ce coq, ce coq finalement qui n'arrête pas de dire au tsar, fais attention, le problème ne vient pas de l'extérieur mais vient de l'intérieur.
Bah oui.
Mais il chante même quand il n'y a rien, le
coq. Oui, c'est
donc
ça.
Il est assez drôle aussi parce que il dit kili kili kikou, ah non, il n'y a rien, tu peux dormir. Super.
Oui. Ben oui. Ça, c'est Pierre et le loup. C'est une autre histoire. Le coq d'or, Rimsky-Korsakov, dirigé par Arnaldino Glu, mise en scène Laurent Pelli, en DVD et Blu-ray chez Bel Air Classique. DVD encore à suivre avec Le Château de Barbe Bleue et La Voix Humaine. Et puis, nous parlerons également d'un disque de prélude pour piano de Messiaen et Debussy.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette dispute consacrée ce soir à la musique, avec la reprise d'une production de 2015 de l'Opéra de Paris et puis une sortie en DVD pour ce double programme, Le Château de Barbe Bleue de Béla Bartók sur un livret de Béla Ballas et La Voix Humaine de Francis Poulenc, d'après la pièce de Jean Cocteau. C'est en ce moment dirigé par Ringo Metzmacher dans la mise en scène de Christophe Warlikowski jusqu'au 11 avril, autant dire jusqu'à demain. Mais il y a un DVD qui vient de sortir chez Arthouse Music, donc de la création de cette production. Et c'était sous la baguette d'Esa-Pekka Salonen. C'était donc il y a un peu plus de deux ans, ce double retour à l'Opéra de Paris, celui du chef finlandais et celui du metteur en scène polonais, ce qui était a priori deux très bonnes nouvelles. Avec ces deux ouvrages, on peut rappeler que Le Château de Barbe Bleue est introduit par un prologue parlé, qu'il est composé d'un seul acte, dont le déroulement est scandé par l'ouverture successives des sept portes du château de Barbe Bleue, puisque donc la nouvelle épouse Judith arrive dans le château, c'est la quatrième épouse, elle lui demande l'accès à toutes les portes, évidemment pour y faire rentrer la lumière, dit-elle, et puis il y a cette septième porte qui est fait l'objet d'un interdit particulier, et puis La Voix Humaine qui est présentée dans cette soirée sans entracte et donc enchaînée à l'Opéra de Bartók avec une entrée en scène dont on reparlera de Barbara Hannigan. Là, pour rappel, c'est un ouvrage composé en 58, cette tragédie lyrique en un acte de Francis Poulenc, la pièce de Cocteau, elle datée de 1930. C'était créé par Denise Duval, c'est le Favart à Paris en 59, monologue, long passage de chant sans accompagnement musical, et donc où on découvre cette femme qui finit par joindre son destinataire au téléphone qu'elle appelle chérie, mais on comprend très vite que le chéri n'a plus tellement envie d'être son chéri. Voilà, c'était pour résumer un peu rapidement. On va écouter un extrait de La Voix Humaine.
J'ai téléphoné à Marthe. Je n'avais pas le courage de mourir seule.
Mais qui aurait ce courage ? Mathieu Conquet ?
Mais pourquoi pas ?
Est-ce qu'il Vous l'auriez faut... ce courage ?
Alors, est-ce qu'on... Peut-être que je n'aurais pas le choix. On verra bien. Est-ce qu'il faut parler du fait de réunir ces deux œuvres, puisque c'est assez rare de voir La Voix humaine à l'Opéra de Paris, justement parce que c'est ici une version orchestrée, mise en parallèle avec Le Château de Barbe Bleue. Je commencerai, si vous voulez bien, par la mise en parallèle de ces deux œuvres, parce que c'est le geste fort de cette programmation. Deux œuvres que plus de 50 ans de musique séparent, des sujets extrêmement différents, avec certes un personnage féminin central très très important, mais à part la brièveté du sujet, on se dit qu'au début, tout ne va pas les rapprocher. Et Varlikovski a cette idée simple, mais qui fonctionne extrêmement bien, de les réunir à travers Jean Cocteau et son film De la Belle et la Bête, hein, qui seront utilisés comme ça, comme des extraits, à la fois pour Barbe Bleue, là on comprend très bien pourquoi, mais aussi pour La Voix humaine, qu'on entendra après. Et puis, les deux œuvres sont liées aussi par la chanteuse que vous venez d'entendre, Barbara Hannigan, qui est présente, même si elle ne chante pas, dès le prologue du Château de Barbe Bleue, et prologue qui est alors, en tout point cinéphile et particulièrement lynchien. On pense beaucoup, beaucoup à David Lynch dans ce prologue, puisque vous voyez des rideaux tendus, un personnage de magicien extrêmement inquiétant, assisté d'une femme qui est incarnée par Barbara Hannigan, qui est à la fois sublime et dont on sent bien qu'elle est soit droguée, soit perdue, soit idiote, on ne sait jamais, soit vraiment géniale. Bon, c'est un peu tout ça à la fois. Et ce magicien vous prévient, il y a ce prologue en fait qui vous dit attention, tout ce que vous allez voir, ça va être peut-être un grand tour de magie. Et pour moi, le tour de magie fonctionne assez bien, même si on aura peut-être l'occasion d'y revenir. J'ai trouvé qu'il y avait plus d'idées dans la mise en scène, en tout cas qu'elles fonctionnaient mieux, ces idées de mise en scène, dans la première partie, dans Le Château de Barbe Bleue, plus que dans La Voix humaine. Voilà pour poser
pour
un petit peu
le
parallèle. Pour
une introduction, on va voir ce qu'en pensent vos camarades, puisque la dernière fois que Le Château de Barbe Bleue avait été donné à l'Opéra de Paris, c'était avec le journal d'un disparu de Jan Hatzack. C'était la Führer del Bauhaus qui avait signé cette mise en scène, c'est pas d'ailleurs leur plus grande réussite. Ce mariage-là, Guillaume Thion, vous en pensez quoi ? Cette association reliée par Christophe Varlikovski, puisque pas d'entracte en plus.
Ouais. Hein. Non, pas d'entracte. Mais déjà, avant de faire l'association entre les deux heures, il y a l'association entre Le Coq d'Or et ces deux œuvres-là, qui démarrent aussi tous deux par un magicien qui arrive et qui commence à
prologuer. Ça, c'est la subtilité de la programmation, je vous remercie de le souligner.
Non, mais il faut parfois aussi dire ce qui est bien, hein, quand c'est bien. En tout cas, voilà, ce que je trouve formidable, c'est que ce mandrake,
on a un bon point.
Ce mandrake qui nous arrive en prologue, justement, avec ses infrabasses, etc., ce caractère vraiment très, très cinématographique, tout de suite crée une sorte de densité magnétique qui est vraiment propre à Varlikovski et qu'on retrouve souvent dans ses mises en scène, à tel point qu'on se demande si justement c'est pas un petit peu ça qu'il cherche, justement c'est le tour de magie. Et partant de là, en regardant effectivement les deux formules du spectacle, c'est-à-dire grosso modo, Eros et Thanatos, rentrer, il y a de la place, tu es mon amant, mais tu es peut-être aussi mon ennemi, peut-être vas-tu me tuer, tu vas me détruire, etc. Ça, certes, c'est dit, c'est signifié, mais en fait, avec toutes ces cages de plastique, de verre, qui sont très sagement rangées, à cour et à jardin, qui ressort, qui rentre, où on a des fois des couleurs, des fois des sentiments, des fois des télévisions, des fois des gens, où, en fait, on peut pas s'empêcher d'imaginer Varlikovski comme une sorte de petit chimiste avec des éprouvettes qui essaye de monter au centre de la scénographie, justement un espèce de réseau d'influence, comment ça opère, comment les sentiments fonctionnent, à partir de quand on a mal, etc. Et vu sous cet angle-là, sous l'angle hypnotique de la situation et de révéler l'immontrable et l'invisible, moi je trouve à chaque fois que c'est formidable. En plus, les chanteurs sont très bons, chacun, on y reviendra, chacun dans leur registre et leur domaine. Barbara Hannigan avec ses qualités, ses défauts, et puis John Relia et Gubinova aussi dans la première partie.
On va reparler en effet des chanteurs. Lucille Como.
Non, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est un très très grand spectacle par la magie de cette transition dont on a déjà parlé, mais qui est quand même vraiment assez impressionnante et qui fonctionne bien. Enfin vraiment, moi au départ, je me suis dit mais comment on peut coller ça ? Ça fonctionnait pas a priori. Et là, ça marche très très bien. Et parce que là, c'est à mon avis vraiment le Varlikovski. Pourtant, j'aime pas tout ce qu'il fait, mais qui fonctionne où il y a rien de plaqué, où tout est relativement intelligent par rapport à la partie partition et au livret, avec ce côté qui est vraiment obsessionnel chez lui, que parfois je n'aime pas, mais là qui fonctionne, de faire des personnages féminins qui ressemblent un peu à des actrices hollywoodiennes, mais du Hollywood vraiment franchement décadent. Donc la première, Judith, est extrêmement plantureuse, avec toujours ses chevelures immenses qui servent à tout. Voilà. Et qui finalement est celle qui bouffe littéralement Barbe Bleue plus qu'elle ne se fait bouffer. Et puis qui est ensuite prolongée par le personnage qui est donc ce personnage de elle dans La Voix Humaine, qui pourtant a un physique très différent, Barbara Hannigan, mais toujours ces effets de chevelure, les grands maquillages, bon, en l'occurrence le maquillage qui coule. Donc sur les personnages féminins, ça fonctionne très bien. Cette manière aussi, qui est une marotte pour le coup scénographique de Warlikowski, d'utiliser des modules en verre qui circulent sur la scène de Cour à Jardin,
comme des vitrines,
comme des vitrines qui en fait s'imbriquent, qui représentent chaque porte à ouvrir. C'est pas facile. Moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire pour ouvrir ces fameuses portes? C'est parfait. Et en fait, il faut dire que ces modules en verre restent ensuite pour la Voix Humaine et forme une sorte de bloc dont on voit par transparence les différents feuilletage, les différentes étapes, et ça reste, du coup Barbe Bleue reste en tête pendant La Voix Humaine et apporte à la partition, si elle en avait besoin, qui est déjà extrêmement intense, une intensité supplémentaire dans le drame et dans la tragédie. Moi je vais peut-être commencer par La Voix Humaine parce que j'adore cette œuvre, ça me fait pleurer mais au bout de 5 minutes, et là je trouve que c'est une mise en scène, enfin vraiment j'étais bouleversée alors que j'ai vraiment l'impression de connaître ça par cœur.
Mais dire quand même que c'est Małgorzata Czerniak qui est la scénographe vraiment depuis très 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 longtemps de Krzysztof Warlikowski, et que ce sont vraiment des créations en tandem qu'ils font tous les deux, et que c'est vraiment toujours cette idée de la boîte dans la boîte, où qu'il soit Warlikowski, il met des boîtes et il met les gens en boîte.
Il y a beaucoup de contenants et beaucoup de salles de bain.
Il y a des lavabos, effectivement, il y a de la céramique, on se souvient de son Iphigénie en Taurine, également à Garnier qui était vraiment aussi dans ce domaine-là, mais voilà, il faut quand même la citer parce que c'est vraiment un travail créatif à deux, et que s'il n'y a pas les espaces de Małgorzata Czerniak, pas ces mises en scène de Krzysztof Warlikowski. Mais alors, donc, La Voix Humaine.
La Voix Humaine, bon, ce qui est particulièrement, à mon avis, réussi, c'est que Warlikowski a parfaitement compris ce qu'il y avait à la fois, enfin, l'équilibre entre le comique, qui est parfois burlesque, notamment du début de La Voix Humaine, et la progression vers la tragédie. C'est-à-dire que ça commence vraiment comme un drame bourgeois, parce que comme un vaudeville, en fait, avec cette histoire de téléphone et de tierce personne qui s'introduit dans une conversation. Allô, allô, la ligne est coupée, il y a quelqu'un sur la ligne. Et ça se termine littéralement dans presque la Traviata. Enfin, la fin, c'est de cet ordre-là, avec un lyrisme à l'orchestre que je trouve... Bon, alors, j'ai pas revu le spectacle sous la direction du nouveau chef qui le joue, mais là, sous la direction de Salonen, ça fonctionne extrêmement bien. L'orchestre a une ampleur, notamment dans l'enregistrement. Je sais à nouveau pas comment ça passe à Bastille, mais en tout cas, a une ampleur qui...
C'était sublime.
Voilà, qui mène jusqu'à la fin. Donc vraiment, l'équilibre entre le comique, notamment au début, cette Barbara Hannigan qui est à plat, à quatre pattes pendant assez longtemps, et qui commence à chanter comme ça avec ses grands cheveux devant la tête, et on la voit aussi à l'écran de face, donc on a double dimension et
vu d'en haut aussi.
Oui, voilà, vu d'en haut, c'est incroyable d'avoir fait ça.
Fond de scène.
C'est fou.
Il y a un petit coup de génie, effectivement, au moment où elle tombe, vous découvrez le sol qui est en plus avec un motif ravissant, très graphique. Voilà, ça marche très bien. Et ce renversement, en fait, il est opéré par l'ensemble de la mise en scène, notamment dans La Voix Humaine. Moi, j'ai une réserve sur ces idées.
Mais finissez peut-être la phrase. Vous, Mathieu Conquet, pour que les auditeurs et auditrices comprennent.
C'est plus seulement une femme qui se fait plaquer, puisqu'on va comprendre que c'est peut-être elle qui met fin à la relation, qui met peut-être fin à la vie de son amant, qu'on va voir présent sur scène, en fait. La Voix Humaine, c'est une absence. Or là, Krzysztof Warlikowski choisit de rendre le chéri très présent sur scène, à mon sens beaucoup trop...
On ne sait pas si c'est lui, en fait. C'est une figure masculine, errante, une sorte de fantôme.
Une projection.
Pour moi, ça pouvait aussi être le fantôme de Barbe Bleue. Enfin,
il est absolument très présent, dans La Voix Humaine. Là,
mais physiquement, il n'est pas censé l'être. Là, il choisit de le rendre présent à travers la figure d'une sorte de gitan rocker qui a une blessure, qui va se mettre
gitan,
à saigner
de plus en plus.
Le coup du gitan.
Bah, c'est un peu ça. Enfin,
d'accord.
C'est l'image que... C'est un peu
un Latin lover, quoi.
Oui,
super.
Chanteur de flamenco. Mmh.
Si mais il n'est pas gitan, il a un perfecto, un ampli Marshall.
Oui, c'est un rocker.
C'est le stéréotype ado de
perfecto. Il a une tasse des platas électriques.
Il manque juste le t-shirt blanc qu'il
doit
avoir.
Il n'a pas de perfecto dans la mise en scène que j'ai vue. Il a une veste de costume. Donc il est en costume.
Oui, c'est vrai.
Oui, oui. Il a une guitare, soit, mais ensuite il est en costume.
Bon, il est présent.
Voilà. Et
en tout cas, dans sa tête, à elle.
Moi, je trouve ce danseur, puisqu'il ne va pas chanter, au bout d'un moment, je le trouve extrêmement présent. Donc, il a une plaie qui saigne et qui va se mettre à saigner de plus en plus. Et je trouve que sa présence de... En plus, c'est un chorégraphe, c'est Claude Bardouille qui l'incarne. C'est un peu tout... Pour moi, ça incarne tous les clichés de la danse contemporaine, avec des convulsions, des roulades, enfin, des choses qu'on a vues beaucoup, beaucoup, et je trouve que ça vient alourdir une voix humaine qui est extrêmement bien portée par Barbara Hannigan, à qui Warlikowski fait faire tout et n'importe quoi. Alors, je pense qu'il y a plein de mélomanes qui vont hurler en disant « Mais il l'a fait chanter la tête en bas !» Elle est obligée de se rouler, effectivement. Elle est obligée de tout faire, ce qui fait qu'ajouter au brio de sa prestation.
Mais c'est un duo qui fonctionne magnifiquement depuis Loulou, c'est à la Monnaie, d'ailleurs.
C'est très beau à entendre, certains à voir. Moi, je trouvais qu'il y avait moins d'idées que dans les boîtes et les jeux d'enchassement qu'il y avait dans Barbe Bleue.
Guillaume Thion.
On sur quoi?
Je sais pas comme vous voulez.
Non, effectivement, on peut quand même dire que dans la voix humaine, l'aspect performatif prend le pas sur l'aspect mise en scène. Effectivement, il se sert des boîtes, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est Barbara Hannigan.
C'est ce qu'il veut nous montrer, oui.
Voilà. Avec, effectivement, quand vous dites ça va faire hurler les mélomanes parce qu'elle chante assise par terre, elle chante en regardant le fond de la pièce, etc. Elle le veut aussi. Elle adore ça. C'est son grand truc. Elle saute, elle tombe du canapé. Voilà. Donc
oui,
elle est prodigieuse.
Elle le demande.
Exactement.
Quant
à Barbe Bleue, on est sur les chanteurs, vous voulez dire?
Comme vous voulez.
D'accord. Non, mais j'ai cherché à rebondir sur quelque chose, et voilà qui m'est passé. J'ai complètement
oublié. Flamenco, le gitan.
Non, c'était pas le flamenco, c'était pas le gitan. C'était pas le fait qu'il ait pris au premier degré la figure du danseur.
Renversement de la mise en scène.
Non, je pense que c'était sur la musique. Et que justement, quand vous disiez que c'était extraordinairement beau, etc.
Sublime.
Quand on regarde, il y a aussi un point de convergence entre les deux œuvres qui est Pélias et Mélisande. Quand on écoute l'ouverture du château, c'est exactement l'ouverture de Pélias, c'est un hommage mais évident. Et les moments les plus poignants de la voix humaine sont ceux où la musique se lance et démarre comme dans l'acte 4 de Pélias. Et effectivement, cette espèce de ce qui réunit aussi ces deux œuvres, c'est ce parler chanté pour la voix humaine avec Pélias et ce caractère obscur de la recherche de la lumière et en même temps la noirceur et la couleur, etc. qu'il y a dans Barbe Bleue.
Oui, et puis bon, et ça, Pekka Salonen,
c'est son truc.
Oui, mais c'est une Rolls, enfin, c'est plus la Rolls, enfin, il faut pas citer de marque, mais c'est quand même extraordinaire. Enfin, à chaque fois qu'on peut l'entendre diriger depuis la salle, c'est merveilleux. Le DVD lui rend tout à fait justice. Vous l'aviez vu dans la salle, j'imagine
Moi,
aussi.
Je l'avais vu dans la salle il y a 2 ans, ouais. Et je l'ai revu dans la salle cette
avec
année.
Le nouveau chef.
Avec le nouveau
et alors,
chef.
Ça donne quoi, tiens?
J'ai trouvé ça. Moins mûr de son que Salonen,
ouais,
moins emballé, moins dévalant.
Ça emporte
mais
moins.
Voilà. Ouais. Mais il faut dire aussi que la voix humaine c'est une partition extrêmement compliquée aussi, qui est quand même faite d'ornementation et de on va dire de tension dramatique autour du dialogue du monologue de la femme de elle et c'est extraordinairement compliqué. On a l'impression d'entendre une musique de film très rythmée pendant 45 minutes pour emballer tout ça, c'est rude.
Mathieu Conquet.
Je ne sais pas si le DVD peut rendre un effet, plusieurs effets de mise en scène, de déplacement voulu par Warlikowski et sans doute
Barbara
par le chef.
Hannigan n'est pas aussi forte que vue depuis la salle. Hein. C'est vrai que réalisation pêche. Là.
Judith, dans Barbe Bleue, elle est au départ dans le public. Et il y a une idée qui pourrait être complètement tarte à la crème et qui ne l'est pas du tout, qui est de dire le château, c'est la salle de l'Opéra de Paris. En fait, puisque vous avez projeté devant vous un écran qui montre la salle vide dans laquelle se trouve Judith, et donc on va comprendre que toutes les pièces qui vont s'ouvrir, eh bien, nous les portons en nous-mêmes. Et ça, il y a quelque chose de quand même assez fort, d'astucieux. Et puis il y a un autre éclatement, qui là pour le coup est impossible à rendre par le DVD, et que vous ne pouvez vivre que si vous êtes dans la salle de l'Opéra Garnier, c'est que des trompettes, à un moment, vont être placées très loin derrière, à droite, dans des loges, tout en haut. Et il y a un effet d'éclatement, d'espacement sonore, qui fonctionne bien, qui, j'imagine, c'est à la fois la volonté du chef et du metteur en scène, mais ça fonctionne extrêmement bien.
Un dernier mot, Lucille Como.
Non, mais peut-être sur les chanteurs de Barbe Bleue, du coup, dont oui. il faut dire un mot, parce que ce sont oui, deux oui. voix quand même exceptionnelles. Oui. Alors moi, je ne suis pas absolument conquise par le type de voix de Judith là, et Katerina Gubanova, a priori, qui sont des voix graves, très opulentes, limite presque trop riches, trop matures dans les graves. Mais là, en l'occurrence, c'est là où l'opéra fonctionne et où ça arrive si rarement, donc il faut le dire, la mise en scène fait que je supporte ce type d'excès et le lyrisme presque trop engagé dans
trop
la
bonne.
Voix. Voilà, je trouve que... Non mais je sais pas comment dire, mais vraiment ça fonctionne bien aussi parce que il y a une cohérence absolue entre la voix, entre le travail du chanteur et le travail de l'acteur. Et lui, bon, je me souviens plus de son nom, mais alors il est formidable.
Relia.
Et alors pour le coup, c'est un acteur né. Ce qu'on voit alors, là, pour le coup, dans le DVD, c'est vraiment formidable parce qu'on voit les mimiques que lui fait faire la mise en scène, qui sont des mimiques vraiment impressionnantes, presque à la limite de la convulsion. Enfin, c'est très impressionnant et c'est très réussi, vraiment.
Alors, rapidement, Boris Pinot, quelques commentaires sur cette double affiche.
Oui, un mot de Véronique Hunsinger sur Twitter. Bouleversante Barbara Hannigan dans La Voix humaine, qui interprète une femme prise dans l'aporie de la passion, transportée par Warlikowski, un des spectacles forts de la saison. Jacques parle d'une vision extrêmement inspirée du mythologique château de Barbe Bleue à mi-chemin entre La Belle et la Bête et Péléas et Mélisande. Un astre noir, écrit Marin Favre à propos de ce double programme.
Le château de Barbe Bleue, La Voix humaine, Béla Bartok, Francis Poulenc, mise en scène Christophe Warlikowski. Il reste une date, bon, c'est demain à l'Opéra de Paris, mais il y a surtout ce DVD chez Arthouse Music avec Essa-Pekka Salonen dans la fosse.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Le troisième sujet ce soir de notre dispute musique est un CD paru chez Nomade Music, Messiaen, Debussy, Préludes pour piano, interprété par Célimène Daudet. Il s'agit plus précisément des 8 préludes composés en 1929 par Olivier Messiaen. Il avait donc 21 ans à l'époque. Et puis le deuxième livre de préludes de Claude Debussy, composé au début des années 10, donc avec un compositeur qui était lui au sommet de son art. On va écouter les sons impalpables du rêve de Messiaen. Voilà pour cet extrait du disque de Célimène Daudet, des préludes pour piano ici de Messiaen, mais aussi de Debussy. Guillaume Thion commence. Oui.
Alors, on commence. Alors, qui est Célimène Daudet? Célimène Daudet
et la fille
est une pianiste française brillante et sérieuse qui, depuis 10 ans, fait parler d'elle en bien, avec notamment des enregistrements de Bach, Charion, et puis après un compagnonnage avec Amanda Favier dans des sonates pour violon de Beethoven, mais surtout dans La Malle du Poilu, où il y a quelques années, elle avait récupéré des partitions qui étaient dans la malle d'un poilu qui les jouait quand il le pouvait durant la Première Guerre mondiale. Et là, elle revient avec ce disque Messiaen Debussy, donc en cette année Debussy, qui est très intéressant parce qu'il confronte deux modernités pianistiques, donc deux fois des préludes debussiste de fin de carrière, donc on a donc le son de Debussy mature et des préludes de Messiaen de début de carrière qui lui on peut pas vraiment dire qu'il y a une passation de relais ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une autre façon de concevoir les préludes qui lui est beaucoup plus justement dans ce qui avait été abordé pas inconsciemment mais plus timidement en début de siècle comme et que Messiaen a théorisé en mode à transcription limitée, donc tout ce qui était les diminuer, les augmenter, etc. Chaque prélude faisant référence à une couleur, car Messiaen parlait en couleur, et en même temps un modèle harmonique, justement. Et par ailleurs, ça nous permet aussi, on parlait de Pélas tout à l'heure, d'avoir du Debussy en fil rouge pour lier ces deux œuvres. Et voilà, c'est un disque extrêmement réussi, je trouve.
Ben vous avez trouvé les trois indices, vous repartez. Merci. Avec un cadeau donc. Hein. Lucile Como,
un DVD.
Oui, c'est un beau disque, je suis d'accord. Et je trouve que c'est intéressant qu'elle commence par Messiaen et non par Debussy. Donc elle inverse l'ordre chronologique pour bien montrer que, et puis d'ailleurs elle le dit aussi, que la filiation qui l'intéresse, c'est pas une filiation d'ordre théorique, même si en effet Messiaen a beaucoup écouté et je crois même étudié Péléas. Mais vraiment une filiation qui pour elle est de l'ordre presque de la sensation. Et je pense que ce qui accroche et ce qui est intéressant, c'est justement ce dont vous parliez, Guillaume, c'est cette manière que Messiaen avait d'associer chaque prélude avec une couleur, de la même manière que les titres sont extrêmement poétiques et extrêmement imagés, c'est vraiment l'image. Et d'ailleurs, Célimène Daudet, vous avez déroulé sa biographie, elle a aussi beaucoup travaillé avec des gens du spectacle vivant, notamment avec le chorégraphe et danseur Johan Bourgeois, et on sent, je trouve vraiment à l'écoute, qu'on sent les images qu'elle peut avoir en tête et ce fonctionnement un peu synesthésique, justement, avec plusieurs sens, plusieurs sensations à la Rimbaud de la musique. Donc, je trouve que le disque est très beau de ce point de vue-là. C'est presque trop riche. C'est-à-dire que comme ce sont des pièces courtes et qu'il y en a beaucoup, fait, vu qu'elle a voulu faire...
Je suis d'accord, un disque d'une heure vingt, c'est compliqué.
C'est-à-dire que ça demande une attention très particulière, qu'il y a des ruptures de ton absolument incroyables dans les deux types de répertoires. Il y a à la fois du grand piano brillant, notamment dans les dernières pièces, je pense à la fois Un reflet dans le vent de Messiaen et Feu d'artifice, la dernière pièce de Debussy, et du piano presque à la limite de la surdité. Enfin, il y a un truc sourd un petit peu parfois dans Messiaen notamment, des choses très arythmiques, atonales, très délicates. Donc il y a une telle amplitude à la fois de tons, de types de jeux, etc., dans des pièces très courtes, que cette accumulation de ruptures fait que l'écoute demande une grande attention. Et de ce point de vue, c'est pas un disque très agréable dans un sens divertissant à écouter.
Un disque d'études.
Voilà.
Oui, c'est ça. Messiaen, c'est quasiment des études harmoniques.
Oui, tout à fait.
Mathieu Conquet.
Moi, j'ai passé un très bon moment avec ce disque.
un très long moment.
Non, mais j'ai pas trouvé le temps long.
C'est pas du tout ce que je veux dire, pardon.
J'avais un mauvais a priori complètement idiot par rapport à ce disque que je n'avais pas écouté parce que je m'étais dit encore une toute jeune pianiste très jolie, elle est mise en avant parce qu'elle est très jolie et en fait son programme est très beau et très réfléchi. Elle imagine, enfin moi j'aime bien quand les pianistes prennent la parole et la plume pour dire pourquoi et comment ils ont construit leur programme. C'est ce qu'elle fait dans le livret, elle explique pourquoi, comment elle imagine une tendre filiation imaginaire entre Messiaen et Debussy. Juste pour rappeler, en théorie, ils auraient pu se croiser, hein, puisque Messiaen...
À 10 ans quand Olivier Debussy meurt.
Sauf qu'il arrive à Paris.
Si ils les croisés, je suis pas sûr qu'ils seraient beaucoup parlé, quoi.
Non, mais on sait aujourd'hui que Debussy a été très important pour Messiaen, qu'il a joué ses préludes quand il était enfant, que Péléas et Mélisande constituent un de ses grands chocs musicaux. Donc on se dit,
si on est musicien né au début de siècle comme Messiaen, si on s'intéresse pas à Debussy, c'est inquiétant.
Tout ça, c'est très bien vue. Sur la, je reste encore sur l'impression de départ que vous pouvez avoir. On la voit, Célimène Daudet, sur fond de papier peint tropical, on la voit en train de brûler une photo ou une lettre. Et il y a quelque chose du secret caché dans le programme, comme dans le jeu de Célimène Daudet. Alors peut-être que parfois, ça n'a pas le tenus ou l'attaque d'autres musiciens qu'on peut aimer aussi chez Debussy, mais il y a une tendresse, un sens du mystère que je trouve vraiment hyper réussi hein, chez Messiaen, les cloches de l'angoisse et l'arme d'adieu. C'était un petit peu long à passer ici parce que ça fait 8 minutes, mais il y a une rêverie qui s'installe, un climat qui est vraiment tout à fait vaporeux, mais dans le bon sens du terme, hein, avec une sorte de roubato qui est tellement mouvant qu'on ne sait plus à quoi s'accrocher. C'est vraiment un disque que j'ai trouvé, enfin en tout cas dans ces parties-là, très très réussi. Elle va plus loin même chez Messiaen qu'un pianiste comme Roger Muraro, qui est pourtant extrêmement, quasiment référent quand on écoute Olivier Messiaen, l'œuvre pour piano. Voilà, c'est très réussi. Et j'avoue que ce qui m'a aussi plu, c'est de découvrir la personne, la belle personne qu'elle a vraiment l'air d'être, hein, puisqu'elle s'est investie, Célimène Daudet, dans un projet de faire venir un piano. Sa mère est d'origine haïtienne. Elle a voulu donner un concert là-bas. Il n'y a pas de piano classique depuis le séisme en 2010. Elle monte une association, fait venir un piano là-bas, mais pas juste pour elle donner un concert, c'est pour que ce piano reste dans une école de musique et pour pouvoir transmettre au maximum. Et ce geste, il est aussi à l'œuvre dans le livret du disque, puisque vous le disiez, Guillaume, elle reproduit, c'est pas courant, elle reproduit des notes de partition, les indications de couleurs de Messiaen. Et ça, juste pour ça, ça vaut le coup de le lire, hein, plein de calme, gris velouté, reflets mauves et verts. Voilà, c'est vraiment très beau. Ça mérite d'acheter le disque.
Bon, ben voilà, qui est dit. On n'en dira pas plus, si ce n'est qu'on a toujours ce projet, hein, un peu informulé, de faire une dispute musique entièrement consacrée au visuel, hein, des pochettes, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Non, mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'on le fasse un jour. On mettra en simultané sur notre site les images des 10 albums. Parce
après,
que c'est
on
vrai
recevra
que c'est...
plus de disques, mais bon, on peut essayer.
Non, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet qui...
Parce que vous avez un naturel moqueur.
C'est un sujet qui, au bureau, nous occupe beaucoup, mais on peut le faire aussi en musique actuelle. Hein. Mais ça, plutôt avec les noms de groupe. Il y aura aussi beaucoup à dire.
Une coupe de cheveux.
Trêve de plaisanterie. Messiaen, Debussy, prélude pour piano. C'est un disque de Célimène Daudet est paru chez Nomade Musique. Et c'est Camille André qui nous rejoint comme chaque soir après avoir live tweeté cette émission. Et là, elle nous donne des indications concernant le jeu de la dispute. D'abord, un rappel de la question et de la réponse de jeudi soir.
Hugo Pratt, célèbre dessinateur de Corto Maltese, a également été acteur. Dans quel film peut-on le voir? Et il s'agit de Mauvais sang de Léo Scarrax.
Vous avez vu sur Twitter, vous avez vu passer quelqu'un qui nous indique que Hugo Pratt a joué dans un autre film italien, dont je ne retrouve plus le titre tout à fait maintenant, mais Mauvais sang, on va dire que c'est quand même le rôle tout à fait marquant d'Hugo Pratt. Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour l'exposition Enfers et fantômes d'Asie, c'est jusqu'au 15 juillet au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Quelle est la question, Camille?
Eh bien, lors de cette exposition Enfers et fantômes d'Asie, un hologramme de femme vampire chat sera présenté. Par quel artiste cette installation a-t-elle été conçue?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions et vous abonner au podcast. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain, 19h, consacrée aux arts plastiques. Nous serons en compagnie d'Anaël Pija, Stéphane Coréard et Frédéric Bonnet. À notre affiche, Eugène Delacroix au musée du Louvre. Fujita, peindre dans les années folles, c'est au musée Mayol. Et enfin, Abdelkader Benchama, l'horizon des événements, c'est au 104 à Paris.